Tableau de la nature par François-René de Chateaubriand. Préface. 10 poèmes. Premier, Invocation. Deuxième, La forêt. Troisième, Le soir au bord de la mer. Quatrième, Le soir dans une vallée. Cinquième, Nuit de printemps. Sixième, Nuit d'automne. Septième, Le printemps, l'été et l'hiver. Huitième, la mer. Neuvième, l'amour de la campagne. Dixième, les adieux. Préface. Dans l'avertissement placé à la tête du premier volume des œuvres complètes, édition de 1829, j'ai dit « J'ai longtemps fait des vers avant de descendre à la prose. Ce n'était qu'avec regret que M. de Fontane m'avait vu renoncer aux muses. Moi-même, je ne les ai quittées que pour exprimer plus rapidement des vérités que je croyais utiles. » Dans la préface des ouvrages politiques, j'ai dit « Les muses furent l'objet du culte de ma jeunesse. Ensuite, je continuai d'écrire en prose avec un penchant égal sur des sujets d'imagination, d'histoire, de politique et même de finance. Mon premier ouvrage, L'essai historique, est un long traité d'histoire et de politique. Dans le génie du christianisme, la politique se retrouve partout, et je n'ai pu me défendre de l'introduire jusque dans l'itinéraire et dans les martyrs. Mais par l'impossibilité où sont les hommes d'accorder deux aptitudes à un même esprit, on ne voulut sortir pour moi du préjugé commun qu'à l'apparition de la monarchie selon la charte. « Nous avez fait beaucoup de vers, me dira-t-on. Soit, mais sont-ils bons? Voilà toute la question pour le public. » Je sais fort bien que ce n'est pas à moi, mais au public, à trancher cette question. Je ne pourrais appuyer mes espérances que sur une autorité grave à la vérité, mais peut-être fascinée par les illusions de l'amitié. Je vais présenter quelques observations dont je ne prétends faire aucune application à ma personne. Je le dis avec sincérité, et j'espère qu'on le croira. Les grands poètes ont été souvent de grands écrivains en prose. Qui peut le plus, peut le moins. Mais les bons écrivains en prose ont été presque toujours de méchants poètes. La difficulté est de déterminer, lorsqu'on écrit aussi facilement en prose qu'en vers, et en vers qu'en prose, si la nature vous avait fait poète d'abord et prosateur ensuite, ou prosateur en premier lieu et poète après. Si vous avez écrit plus de vers que de prose, ou plus de prose que de vers, on vous range dans la catégorie des écrivains en vers ou en prose d'après le nombre et le succès de vos ouvrages. Si l'un des deux talents domine chez vous, vous êtes vite classé. Si les deux talents sont à peu près sur la même ligne, à l'instant, on vous en refuse un par cette impossibilité où sont les hommes d'accorder deux aptitudes à un même esprit, comme je l'ai déjà remarqué. On vous loue même excessivement de ce que vous avez pour déprécier ce que vous avez encore, mais ce qu'on ne veut pas reconnaître. On vous élève au nu pour vous rabaisser au-dessous de tout. L'envie est fort embarrassée, car elle se voit obligée d'accroître votre gloire pour la détruire, et si le résultat lui fait plaisir, le moyen lui fait peine. Répétez, par exemple, jusqu'à satiété que presque tous les grands talents politiques et militaires de la Grèce, de l'Italie ancienne, de l'Italie moderne, de l'Allemagne, de l'Angleterre, ont été aussi de grands talents littéraires. Vous ne parviendrez jamais à convaincre de cette vérité de fait la partie médiocre et envieuse de notre société. Ce préjugé barbare qui sépare les talents n'existe qu'en France, où l'amour-propre est inquiet, où chacun croit perdre ce que son voisin possède, où enfin on avait divisé les facultés de l'esprit comme les classes des citoyens. Nous avions nos trois ordres intellectuels, le génie politique, le génie militaire, le génie littéraire, comme nous avions nos trois ordres politiques, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Mais dans la constitution des trois ordres intellectuels, il était de principe qu'ils ne pouvaient jamais se trouver réunis dans la même chambre, c'est-à-dire dans la même tête. Le gouvernement public, dont nous jouissons maintenant, fera disparaître peu à peu ces notions dignes des Welches. Il était tout simple que dans une monarchie militaire, où l'on n'avait besoin ni de l'étude politique ni de l'éloquence de la tribune, les lettres parussent un amusement de cabinet ou une occupation de collège. Force sera aujourd'hui de reconnaître que le consul Cicéron était non seulement un grand orateur, mais encore un grand écrivain, comme César était un grand historien et un grand poète. De ces considérations, que, pour le dire encore une fois, je présente dans un intérêt général nullement dans celui de ma vanité, je passe à l'historique de mes poésies. Si j'avais voulu tout imprimer, le public n'en aurait pas été quitte à moins de deux ou trois gros volumes. Je faisais des vers au collège, et j'ai continué d'en faire jusqu'à ce jour. Je me suis gardée de les montrer aux gens. Les muses ont été pour moi des divinités de famille, des lars que je n'adorais qu'à mes foyers. Les poésies, en très petit nombre, que je me suis déterminée à conserver, sont divisées en deux classes, savoir les poésies échappées à ma première jeunesse et celles que j'ai composées aux différentes époques de ma vie. J'en ai marqué les dates autant que possible, afin qu'on pût suivre dans mes vers, comme on a suivi dans ma prose, l'ordre chronologique des idées et le développement graduel de l'art. Tous mes premiers vers, sans exception, sont inspirés par l'amour des chants. Ils forment une suite de petites idylles sans moutons et où l'on trouve à peine un berger. J'ai compris les vers de 1784 à 1790 sous ce titre « Tableau de la nature ». Je n'ai rien ou presque rien changé à ces vers. Composés à une époque où Dora avait gâté le goût des jeunes poètes, ils n'ont rien de maniéré, quoique la langue y soit quelquefois fortement invertie. Ils sont d'ailleurs coupés avec une liberté de césure que l'on ne se permettait guère alors. Les rimes sont soignées, les maîtres variés, quoique disposés à se former en 10 syllabes. On retrouve dans ces essais de ma muse des descriptions que j'ai transportées depuis dans ma prose. C'est dans ces idylles d'une espèce nouvelle que le lecteur rencontrera les premières lignes qui aient jamais été imprimées de moi. Le 9e tableau fut inséré dans l'almanach des muses de 1790. Il y figure à la page 205, sous ce titre que je lui ai conservé, « L'amour de la campagne » par le chevalier de C. On en parla dans la société de Gingenet, de Lebrun, de Chamfort, de Parny, de Flin, de la Harpe et de Fontane, avec lesquels j'avais des liaisons plus ou moins étroites. Je prenais mal mon temps pour faire ma veille des armes dans l'almanach des muses. On était déjà en pleine révolution, et ce n'était plus avec des quatrains qu'on pouvait aller à la renommée. Voici ce que je lis dans les mémoires inédits de ma vie au sujet de mon début dans la carrière littéraire. Après avoir fait le tableau des diverses sociétés de Paris à cette époque et le portrait des principaux acteurs, je dis « On me demandera, et l'histoire de votre présentation, que devint-elle » Elle resta là. « Vous ne chassâtes donc plus avec le roi après avoir monté dans les carrosses ? Pas plus qu'avec l'empereur de la Chine. Vous ne retournâtes donc plus à la cour ? J'allais deux fois jusqu'à Sèvres et revins à Paris. « Vous ne tirâtes donc aucun parti de votre position et de celle de votre frère ?»« Aucun. »« Que faisiez-vous donc ?»« Je m'ennuyais. »« Ainsi vous ne vous sentiez aucune ambition. » »« Si fait, À force d'intrigues et de soucis, je parvins, par la protection de Delisle de Sales, à la gloire de faire insérer dans l'almanach des muses une idylle, l'amour de la campagne, dont l'apparition me pense à faire mourir de crainte et d'espérance. Au retour de l'émigration, mon ami M. de Fontane, qui connaissait mes secrets poétiques, m'engagea à laisser insérer dans le Mercure les vers intitulés « La forêt ». Tandis que j'étais à Londres, M. Pelletier avait publié dans son journal mon imitation de l'élégie de Gray sur un cimetière de campagne. Cette imitation a été réimprimée en 1828 dans les Annales romantiques. Les autres pièces ont été publiées pour la première fois en 1828 dans l'édition de mes œuvres complètes. Invocation. Je voudrais célébrer, dans des vers ingénus, les plantes, leurs amours, leurs penchants inconnus, l'humble mousse attachée aux voûtes des fontaines, l'herbe qui d'un tapis couvre les vertes plaines, sur ces monts exaltés, le cèdre précieux, qui parfume les airs et s'approche des cieux, pour offrir son encens aux dieux de la nature. Le roseau qui frémit au bord d'une onde pure, le tremble au doux parler, dont le feuillage frais remplit de bruit léger les antiques forêts, et le pin qui, croissant sur des grèves sauvages, semble l'écho plaintif des mers et des orages. L'innocente nature et ses tableaux touchants, ainsi qu'à mon amour, auront part à mes chants. De la forêt. Forêt silencieuse, aimable solitude, que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré. Dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude. Prestige de mon cœur, je crois voir s'exhaler des arbres, des gazons, une douce tristesse. Cette onde que j'entends murmure avec mollesse, et dans le fond des bois semble encore m'appeler. Oh, que ne puis-je, heureux, passer ma vie entière, ici, loin des humains, au bruit de ces ruisseaux, sur un tapis de fleurs, sur l'herbe printanière, qu'ignorer je sommeille à l'ombre des ormeaux. Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles, ces genêts, ornement d'un sauvage réduit, ce chèvrefeuille atteint d'un vent léger qui fuit, balance tour à tour leur guirlande mobile. Forêt, dans vos abris, gardez mes vœux offerts. À quel amant jamais serez-vous aussi cher? d'autres vous rediront des amours étrangères. Moi, de vos charmes seuls, j'entretiens vos déserts. Entre parenthèses, vers imprimés dans le Mercure. Voyez la préface. Note de l'auteur. Le soir au bord de la mer. Les bois épais, les syrtes mornes, nus, mêlent leurs bords dans les ombres chenues. En scintillant dans le zénith d'azur, on voit percer l'étoile solitaire. À l'occident, séparé de la terre, l'écueil blanchit sous un horizon pur, tandis qu'au nord, sur les mers cristallines, flotte la nue en vapeur purpurine. D'un carmin vif, les monts sont dessinés. Du vent du soir se meurt la voix plaintive. Et mollement, l'un à l'autre enchaînés, les flots calmés expirent sur la rive. Tout est grandeur, pompe, mystère, amour. Et la nature, au dernier feu du jour, avec ses monts, ses forêts magnifiques, son plan sublime et son ordre éternel, s'élève ainsi qu'un temple solennel, resplendissant de ses beautés antiques. Le sanctuaire où le Dieu s'introduit semble voilé par une sainte nuit. Mais dans les airs, la coupole hardie, des arts divins, gracieuse harmonie, offre un contour peint des fraîches couleurs de l'arc-en-ciel, de l'aurore et des fleurs. Le soir dans une vallée. Déjà le soir de sa vapeur bleuâtre enveloppait les champs silencieux. Par le nuage étaient voilés les cieux. Je m'avançais vers la pierre grisâtre. Du haut d'un mont, une onde rugissant s'élançait. Sous de larges sycomores, dans ce désert d'un calme menaçant, roulaient des flots agités et sonores. Le noir torrent, redoublant de vigueur, entrait fougueux dans la forêt obscure de ses sapins au port plein de langueur, qui, négligés comme dans la douleur, laissent tomber leurs longues chevelures de branche en branche errant à l'aventure. Se regardant dans un silence affreux, des rochers nus s'élevaient ténébreux. Leurs fronts arides et leurs cimes sauvages voyaient glisser et fumer les nuages. Leurs longs sommets, en prismes partagés, étaient des os et des mousses rongés. Des liserons d'humides capillaires couvraient les flancs de ces monts solitaires. Plus tristement, des lierres encore se suspendaient aux rocs inaccessibles. Et contrasté, teint de couleurs paisibles, le jonc, couvert de ses papillons d'or, riait au vent sur des sites terribles. Mais tout s'efface, et surpris de la nuit, couché parmi des bruyères laineuses, sur le courant des ondes orageuses, je vais pencher mon front chargé d'ennui. Nuit de printemps. Le ciel est pur, la lune est sans nuages. Déjà la nuit, au calice des fleurs, verse la perle et l'ambre de ses pleurs. Aucun zéphyr n'agite le feuillage. Sous un berceau, tranquillement assis, où le lilas flotte et pend sur ma tête, je sens couler mes pensées rafraîchies dans les parfums que la nature apprête. Des bois dont l'ombre, en ses prés blanchissant, avec lenteur se dessinent et reposent, deux rossignols, jaloux de leurs accents, vont tour à tour réveiller le printemps qui sommeillait sous ses touffes de roses. Mélodieux, solitaire s'égrait, jusqu'à mon cœur vous portez votre paix. Des prés aussi traversant le silence, j'entends au loin, vers ce riant séjour, la voix du chien qui gronde et veille autour de l'humble toit qu'habite l'innocence. Mais quoi, déjà, belle nuit, je te perds? Parmi les cieux à l'aurore entr'ouverts, Phébé n'a plus que des clartés mourantes, et le zéphyr, en rasant le verger, de l'Orient, avec un bruit léger, se vient poser sur ses tiges tremblantes. Nuit d'automne. Mais des nuits d'automne, goûtons les douceurs, qu'aux aimables fleurs succède pomone. Le pâle couchant brille encore à peine, De Vénus qu'il mène, l'astre va penchant. La lune, emportée vers d'autres climats, ne montrera pas sa face argentée. De ses peupliers, au bord des sentiers, les zéphyrs descendent, dans les airs s'étendent, effleurent les eaux, et de ses ormeaux raniment la sève. Comme une vapeur, la douce fraîcheur de ses bois s'élève. Sous ces arbres verts, qu'un vent frais balance, j'entends en silence leur léger concert. Mollement bercée, la voûte pressée, en dôme orgueilleux, serre son ombrage, et puis s'entrouvant, du ciel lentement, découvre l'image. Là, des nuits, l'azur, dans un cristal pur, déroule ses voiles, et le flot brillant coule en sommeillant sur un lit d'étoiles. Ô charme nouveau, le son du pipeau dans l'air se déploie, mais du fond des bois m'apporte à la fois l'amour et la joie. Près des ruisseaux clairs, aux chaumes d'Adèle, le pasteur fidèle module ses airs. Tantôt il soupire, tantôt il désire. Se tait, tour à tour, sa simple cadence me peint son amour et son innocence. Dans son lit heureux, la pauvre attentive écoute, pensive, ses sons dangereux. Le drap qui la couvre, loin d'elle a roulé, et son œil troublé, mollement s'en trouve. Tout entière au bruit qui, pendant la nuit, la charme et l'accuse, Adèle au vainqueur, son aveu refuse, et donne son cœur. Le printemps, l'été et l'hiver. Vallée au nord, onduleuse prairie, désert charmant, mon cœur, formé pour vous, toujours vous cherche en sa mélancolie. À ton aspect, solitude chérie, je ne sais quoi de profond et de doux vient s'emparer de mon âme attendrie. Si l'on savait le calme qu'un ruisseau, en tous mes sens, porte avec son murmure, ce calme heureux que j'ai sur la verdure, goûter cent fois seul au pied d'un coteau. Les froids amants du froid séjour des villes rechercheraient ces voluptés faciles. Si le printemps les champs vient émailler, dans un coin frais de ce vallon paisible, je lis assis sous le rameux noyer, aux rudes troncs, aux feuillages flexibles, du rossignol le suave soupir enchaîne alors mon oreille captive. Et dans un songe au-dessus du plaisir laisse flotter mon âme fugitive. Au fond d'un bois, quand l'été va durant, est-il une onde aimable et sinueuse qui, dans son cours, lente et voluptueuse, à chaque fleur s'arrête en soupirant. Cent fois, au bord de cette onde infidèle, j'irai dormir sous le coudre odorant et disputer de paresse avec elle. Sous le saule nourri de ta fraîcheur amie, fleuve témoin de mes soupirs, dans ces prés émaillés, au doux bruit des zéphyrs, ton passage offre ici l'image de la vie. En des vallons déserts, au sortir de ces fleurs, tu conduis tes ondes errantes. Ainsi nos heures inconstantes passent des plaisirs aux douleurs. Mais si voluptueux, du moins dans notre course, du printemps nous allons jouir, nos jours plus doucement s'éloignent de leur source, emportant avec eux un tendre souvenir. Ainsi tu vas, moins triste, aux rochers solitaires, vers ces bois où tu fais toujours. Si, de ces prés, ton heureux cours entraîne quelques fleurs légères. De mon esprit ainsi l'enchantement naît et s'accroît pendant tout un feuillage. L'aquilon vient et l'on voit tristement l'arbre isolé sur le coteau sauvage se balancer au milieu de l'orage. De blancs oiseaux, en troupes partagées, quittent les bords de l'océan antique. Tous en silence à la file rangée, fendent l'azur d'un ciel mélancolique. Gèrent aux forêts où pendent les frimas, interrompus par le bruit de la feuille que lentement je traîne sous mes pas. Dans ces pensées mon esprit se recueille. Qui le croirait, plaisir solacieux, je vous retrouve en ce grand deuil des cieux. L'habit de veuve embellit la nature. Il est un charme à des bois sans parure, ces prés riants entourés d'aunes verts, où l'onde molle énerve la pensée, où sur les fleurs l'âme rêve bercée aux doux accords du feuillage et des airs. Ces prés riants que l'aquilon moissonne plaisent au cœur. Vers la terre courbée, nous imitons, ou flétris, ou tombés, l'herbe en hiver et la feuille en automne. VIII. La mer. Des vastes mers, tableau philosophique, tu plais au cœur de chagrin agité. Quand de ton sein, par les vents tourmentés, quand des écueils et des grèves antiques sortent des bruits, des voix mélancoliques, l'âme attendrie en ses rêves se perd, et, s'égarant de pensée en pensée, comme les flots de murmure en murmure, elle se mêle à toute la nature. Avec les vents, dans le fond des déserts, elle gémit le long des bois sauvages, sur l'océan vole avec les orages, gronde en la foudre et tonne dans les mers. Mais quand le jour sur les vagues tremblantes s'en va mourir, quand, souriant encore, le vieux soleil glace de pourpre et d'or le vert changeant des mers étincelantes, dans des lointains fuyants et veloutés, en enfonçant ma pensée et ma vue, j'aime à créer des mondes enchantés, baigner des eaux d'une mer inconnue. L'ardent désir des obstacles vainqueurs trouve, embellit des rives bocagères, des lieux de paix, des îles de bonheur, où, transporté par les douces chimères, je m'abandonne aux songes de mon cœur. 9. L'amour de la campagne. Que de ces prés l'émail plaît à mon cœur, que de ces bois l'ombrage m'intéresse. Quand je quittais cette onde enchanteresse, l'hiver régnait dans toute sa fureur. Et cependant mes yeux demandaient ce rivage. Et cependant d'ennui, de chagrin dévoré, au milieu des palais, d'hommes froids entourés, je regrettais partout mes amis du village. Mais le printemps me rend mes champs et mes beaux jours. Vous m'allez voir encore, ô verdoyante plaine, assis nonchalamment auprès de vos fontaines, un tibule à la main, me nourrissant d'amour. Fleuve de ces vallons, là, suivant tes détours, j'irai seul et content gravir ce mont paisible. Souvent tu me verras, inquiet et sensible, arrêté sur tes bords en regardant ton cours. J'y veux terminer ma carrière, rentrer dans la nuit des tombeaux, mon ombre, encore tranquille et solitaire, dans les forêts cherchera le repos. Au séjour des grandeurs, mon nom mourra sans gloire, mais il vivra longtemps sous les toits de roseaux, mais d'âge en âge, en gardant leurs troupeaux, des bergers attendris feront ma courte histoire. Notre ami, diront-ils, naquit sous ce berceau. Il commença sa vie à l'ombre de ses chênes, il la passa couchée près de cette eau, et sous les fleurs, sa tombe est dans ses plaines. Entre parenthèses, vers imprimés dans l'Almanach des Muses, année 1790, page 205. Voyez la préface, note de l'auteur. X. Les adieux. Le temps m'appelle, il faut finir ces vers. À ce penser, défaillit mon courage. Je vous salue, ô vallons que je perds. Écoutez-moi, c'est mon dernier hommage. Loin, loin d'ici, sur la terre égarée, je vais traîner une importune vie. Mais quelque part que j'habite, ignorée, ne craignez point qu'un ami vous oublie. Oui, j'aimerais ce rivage enchanteur. C'est mon désert qui remplissait mon cœur, et de silence et de mélancolie. Sur tous ces bois, chers à ma rêverie, où je voyais de buisson en buisson voler sans bruit un couple solitaire, dont j'entendais, sous l'orme héréditaire, seul, attendri, la dernière chanson. Simples oiseaux, retiendrez-vous la mienne? Parmi ces bois, ah, qu'ils vous en souviennent! En te quittant, je chante tes attraits. Bord adoré, de ton maître fidèle, si les talents égalaient les regrets, ces derniers vers n'auraient point de modèle. Mais au pinceau de la nature épris, la gloire échappe et n'en est point le prix. Ma muse est simple et rougissante et nue, je dois mourir ainsi que l'humble fleur qui passe à l'ombre et seulement connue de ces ruisseaux qui faisaient son bonheur.